Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30 avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Alerte rouge sur la planète bleue. Une nouvelle fois, les experts du GIEC tirent la sonnette d'alarme. Le réchauffement climatique va nous impacter de plus en plus. Il y a encore une petite chance pour arrêter la machine infernale, mais il faut faire très vite. Après les inondations ces derniers jours, ce sont surtout de gigantesques incendies qui font la une de l'actualité. Nous irons en Grèce dans un instant, où pour le 7e jour consécutif, les autorités luttent contre les flammes. Ce lundi 9 août, c'est évidemment, vous le savez, la mise en œuvre du pass sanitaire dans les restaurants, les cafés, mais aussi les gares ou encore les cinémas. Nouvelles habitudes à prendre depuis ce matin, avec pour l'instant, vous l'entendrez, une certaine indulgence lors des contrôles. Et vous, avez-vous vos justificatifs en poche? Dites-nous comment vous vivez ce premier jour de passe sanitaire. On attend vos appels au 3210. Vous pouvez également réagir à ces annonces que l'on voit fleurir sur les réseaux sociaux. Des annonces pour trouver des lieux de contamination. Certains espèrent ainsi échapper à la vaccination et garder leur liberté de mouvement. Dans ce journal, un an après les manifestations monstres en Biélorussie contre le pouvoir en place, la répression continue. La principale opposante au président Loukachenko se trouve en Lituanie et pour RTL, Émilie Beaujard a réussi à la joindre. Et puis nous parlerons foot, évidemment. Cela pourrait être une question d'heure avant que Lionel Messi ne soit officiellement un nouvel attaquant du PSG. Les supporters parisiens trépignent d'impatience. La météo, bonjour Claire Delorme.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Ça y est, enfin, on entrevoit une amélioration.
Exactement, on commence enfin à voir le bout du tunnel. Le soleil va s'imposer progressivement sur l'ensemble des régions dans le courant de la semaine, avec même une belle hausse du mercure. Mais en attendant, la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France vont devoir patienter aujourd'hui avec un ciel mitigé entre passages nuageux, averses, mais aussi quelques éclaircies. Passer ces régions, eh bien on va plus vers le sud et plus le soleil va l'emporter, avec même une hausse des températures. Je vous l'ai dit, ça commence déjà à leur ascension, 19 à 23 degrés du nord et nord-ouest, 22 à 26 degrés sur l'est et le massif central, 25 à 30 degrés du sud-ouest à la Méditerranée, et avec des pointes de 33 à 34 degrés dans les Bouches-du-Rhône, l'intérieur de la Provence et sur Bonifacio.
Merci beaucoup Claire et à tout à l'heure. La question du jour que l'on vous pose sur RTL, attendez-vous avec impatience les Jeux Olympiques 2024 de Paris? Répondez-nous, appelez-nous, vous le savez, cette émission est également la vôtre. On attend vos appels au 3210.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
Et des épisodes de canicule de plus en plus fréquents, des pluies diluviennes avec à chaque fois des conséquences dramatiques. Ces dernières semaines, les exemples ont été nombreux et il est désormais impossible de ne pas les lier au réchauffement climatique. Nouvel avertissement ce matin avec le rapport des experts du GIEC, rapport alarmant. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
L'impact du réchauffement climatique est très concret.
Oui, jusqu'à présent, quand vous demandiez à un climatologue si telle inondation ou telle sécheresse précise était liée au réchauffement, il vous répondait qu'il ne savait pas. Mais désormais, grâce à la puissance des ordinateurs, il est possible, dans certains cas, de l'affirmer en calculant des probabilités qu'un événement se produise dans le monde d'avant, sans réchauffement, et dans celui d'aujourd'hui. Gerhard Kriener est chercheur au CNRS. Il fait partie de la dizaine de scientifiques français qui ont rédigé ce rapport.
On fait le rapport entre ces deux probabilités. Et pour l'événement qui a eu lieu au Canada il y a quelques semaines, c'était 100 fois plus probable dans le monde d'aujourd'hui que dans le monde qu'on a connu il y a 50 ans. Alors ça, c'est un des progrès importants qui a été fait ces dernières années, cette attribution d'événements extrêmes individuels.
Alors on peut le prouver pour des chaleurs extrêmes, pour les incendies c'est plus compliqué, ça dépend de l'état des forêts, mais ce rapport fait un lien et surtout il confirme que toutes ces catastrophes météorologiques seront de plus en plus fréquentes.
Alors question, peut-on encore inverser la tendance Virginie ?
Oui, il y a différents scénarios dans ce rapport, très pessimiste, mais il y a quand même une possibilité de limiter le réchauffement à 2 degrés, mais il faudrait faire des efforts gigantesques.
Dans ce scénario, on peut encore limiter le réchauffement, mais ça implique des réductions extrêmement fortes dès aujourd'hui. C'est comparable à la réduction d'émissions qu'on a eue pendant le Covid. Donc c'est extrêmement fort, oui.
Alors ça ne veut pas dire qu'il faudrait chaque année clouer tous les avions au sol ou arrêter l'économie, comme lors du premier confinement, mais faire par exemple pour la France deux fois plus d'efforts sur l'isolation des logements, les transports propres, moins gaspillés. On en est loin. Ce rapport est un avertissement sérieux lancé au gouvernement avant la 26e conférence sur le climat qui se tiendra à Glasgow dans 3 mois.
Alors vous nous le disiez à l'instant, Virginie Garin, les incendies qui ravagent la Californie, la Turquie et la Grèce en ce moment même n'ont pas été étudiés, pas encore étudiés, pour voir si là aussi c'est une conséquence directe du réchauffement climatique. En tout cas, en Grèce, à 200 km d'Athènes, sur l'île d'Eubée, la situation est toujours préoccupante. Des centaines d'habitants ont encore dû être évacués par la mer, Alexia Kefalas.
Oui, le cauchemar est sans fin au nord de l'île d'Eubée. 2600 personnes ont été évacuées depuis hier sans savoir si elles pourront revenir dans leur village. De même en Arcadie, dans le Péloponnèse, où la langue de feu s'est emparée de plusieurs habitations. Heureusement, les évacuations sont rapides, ce qui facilite l'intervention de l'armée et des pompiers grecs et internationaux. La France, qui a déjà envoyé 83 hommes, 108 tonnes de matériel et 2 avions, dépêche aujourd'hui 100 soldats de feu de plus, ainsi que 28 véhicules. Une vingtaine de pays intervient aussi en ce moment sur les feux. L'aide est la bienvenue, car les pompiers grecs sont épuisés après 7 jours de lutte non-stop. Et parce que la vague de canicule repart ce matin de plus belle, il est midi et il fait déjà 43 degrés.
Alexia Kefalas en Grèce pour RTL. Il est midi 36 sur RTL. Depuis ce matin, nouvelles habitudes à prendre avant d'aller dans un restaurant ou dans un café. Vous le savez, il faut être muni d'un pass sanitaire, prouver que l'on est vacciné ou présenter un test négatif de moins de 72 heures pour pouvoir entrer. Nouveau réflexe à adopter pour les consommateurs, mais aussi pour les patrons d'établissements. Patrick Hisson vous attend en direct de Toulouse pour RTL. Vous vous trouvez au bistrot La Rotonde. Et pour ce premier jour, encore pas mal de tolérance.
Oui, très clairement, il y a beaucoup de souplesse depuis ce matin dans ce café-restaurant. Steven Thomas est le directeur.
On se donne 24 heures de tolérance où on explique un petit peu aux gens, on fait un peu du préventif. On est comme l'État, l'est avec nous pendant une semaine. Nous, on se donne que 24 heures.
Donc tout se passe bien forcément aujourd'hui pour l'instant.
Pour l'instant, tout se passe bien.
Cela dit, les contrôles sont effectués, les clients sont parfois un peu grincheux, mais l'immense majorité a bien son pass sanitaire.
Allez, hop, scan. Parfait, pour vous c'est valide. Voilà. Et le scan pour monsieur.
Et c'est un petit code belge.
C'est valide également.
Moi j'ai fait un test avant-hier.
Et moi je suis vacciné, donc voilà, je n'y pense plus. Même si je ne suis pas, je trouve la décision du pass un peu violente.
Cette jeune femme est aussi en règle, mais un peu surprise.
On savait, mais on ne s'y attendait pas forcément d'être dehors en terrasse et qu'on nous demande le pass. Nous, on a le pass, donc ça va, mais ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est vrai que c'est compliqué, quoi.
Steven, le patron, doit aussi répondre depuis ce matin aux questions des clients.
Mon père qui voulait venir boire un café, mais qui a une vaccination sur deux.
Alors, normalement, il faut avoir le schéma complet, c'est-à-dire être vacciné 2 fois pour que ça fonctionne. J'ai fait le test avec un client ce matin. Donc quand on a scanné, ça n'a pas fonctionné. Enfin, il y avait écrit non valide.
Quant à la fréquentation, selon ce cafetier-restaurant, elle a été divisée par 2 depuis ce matin, malgré le soleil en fin de retour à Toulouse.
Patrick Hisson sur la place du Capitole pour RTL. Passe sanitaire pour les restaurants et les cafés, mais aussi depuis ce matin pour les cinémas, peu importe le nombre de spectateurs. Idem pour les hôpitaux ou encore les transports pour faire un long trajet, que ce soit en bus, en avion ou encore en train. Là aussi, vous devez être en mesure de présenter un justificatif. Pour évaluer la mise en place de cette procédure, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, s'est rendu gare de Lyon ce matin. Gare de Lyon où les contrôles ont déjà commencé. C'est Valentin Boisset.
Oui, Agnès, des affiches bleues ont fait leur apparition dans la gare avec cette devise, un billet, un masque, un pass.
On vous demandera de montrer votre pass sanitaire.
Dans les halls, des agents aussi en bleu contrôlent les passes sanitaires et parfois ça coince.
Le papier des vaccins, donc le mieux aussi, ça marche.
Alors,
ou pas.
La première injection, ça marche pas. En fait, pour voir le pass sanitaire, oui, c'est une semaine après le deuxième vaccin.
La plupart du temps, le pass est validé. Les agents remettent un bracelet bleu qui permet ensuite de prendre le train.
Je vous donne un petit bracelet, ça prouve comme quoi on a déjà vérifié votre pass sanitaire. Oui.
Bonjour, du coup tout est bon pour vous ?
Oui, j'avais un peu peur. Je trouve que c'est une très bonne organisation. Ça va nous faire gagner du temps, à mon avis, à l'embarquement.
Vous partez en vacances, vous, par exemple ?
Oui, à Arles.
Bonnes vacances. Ce matin, sur 400 contrôles, seuls 3 n'étaient pas valides. Ces vérifications ne sont pas systématiques aujourd'hui. Elles n'ont ni lieu dans tous les trains, ni dans toutes les gares. Une première semaine donc de pédagogie, selon Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports.
Nous l'avons toujours dit, de la souplesse, de la pédagogie. Aujourd'hui, c'est environ un quart des trains qui vont être contrôlés à l'échelle du pays, pour avoir une expérience client qui soit satisfaisante.
À noter que si vous n'avez pas vos passes, vous pouvez tout de même prendre le train pour les vacances car des stands de tests antigéniques sont présents en gare.
Le reportage de Valentin Boisset, gare de Lyon pour RTL. Aux Antilles, sur le front du Covid, la situation est toujours critique. Les hôpitaux sont saturés. Pour venir en aide aux soignants sur place, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a lancé un appel au volontariat hier. Appel entendu puisque dès demain, les Hauts-de-France envoient des renforts en Martinique et en Guadeloupe. En tout, ce sont 8 médecins et 22 soignants qui iront prêter main forte à leurs collègues. Et nous prenons d'ailleurs la direction de l'hôpital de Calais où nous sommes en direct avec Frédéric Baptiste, chef des urgences de l'hôpital, et Céline Guérin, infirmière. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous faites partie de cet effectif donc, qui décolle demain. Quand et comment avez-vous décidé de vous porter volontaire ? Qui commence ? Céline ?
Oui, si vous voulez. Ben, écoutez, hier, sur le lieu de travail, on nous a informé d'une demande de renfort pour les Antilles en demandant des volontaires. Donc, on s'est porté volontaire et on a su ce matin qu'on partait.
Aucune hésitation. Tout de suite, vous êtes dit « il faut y aller », Frédéric Baptiste ?
Oui, ben moi c'est un peu comme Céline, j'étais de garde hier et donc le retour de la direction sur cet appel du ministère pour aller aider les collègues des DOM-TOM et pas d'hésitation mais de voir la faisabilité de cette solidarité parce que ça peut se faire que dans l'équipe, il y a aussi une solidarité pour reprendre les journées, les gardes qu'on aurait dû faire si on était resté sur Calais. Donc la solidarité, elle vient de ceux qui partent et de ceux qui restent aussi pour se réorganiser. Et on a pu voir ça assez rapidement et finalement prendre la décision de partir assez rapidement.
Oui, là aussi, c'est un travail d'équipe, on l'entend bien, solidarité au sein de toutes vos équipes. En revanche, est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué ? Ça fait un an et demi maintenant que vous êtes en première ligne. On se dit que vous auriez peut-être préféré un petit peu profiter de ce moment d'accalmie, entre guillemets.
Céline, je te laisse répondre.
La fatigue est là, mais sans hésitation, on va aller en aide. Les situations compliquées, on connaît les situations compliquées et c'est sans hésitation qu'on va aller en aide à nos collègues des Antilles.
Et justement, vous.
C'est grâce aussi à nos familles qui nous soutiennent pour qu'on peut partir.
Et justement, est-ce que vous savez déjà où vous allez aller ? Quel sera votre point de chute ?
Non, il y a un premier rendez-vous sur Paris en début d'après-midi où les forces en présence seront rassemblées et où on aura des informations supplémentaires sur la répartition dans les différents hôpitaux et de préciser la mission. Là, pour l'instant, on ne sait pas.
Et vous savez en tout cas à quelle situation vous attendre ou pas du tout là, au fur et à mesure, c'est heure par heure
Oui, c'est plutôt du heure par heure, même si malheureusement on sait que les difficultés sont énormes, que les équipes sur place sont elles vraiment fatiguées, et donc rien pour ça, ça justifie notre mobilisation.
Et combien de temps allez-vous rester, vous le savez, ou pas du tout ?
Alors là, on est parti pour une mission de 15 jours.
15 jours, tous les deux, d'accord. Et sachant que la situation ne devrait pas tout de suite s'améliorer sur place, on le sait, car beaucoup de gens ne sont pas vaccinés, vous dites ce sera toujours ça de prix, on va apporter ce que l'on peut, ne serait-ce que pour nos collègues, effectivement, vous le disiez, épuisés.
Oui, effectivement, je pense que 15 jours ne suffiront pas, mais que c'est le début d'une aide qui est en train de s'organiser et qui pourra revêtir plusieurs visages et plusieurs actions différentes et que les choses là sont en train de se mettre en place dans le temps sur l'ensemble des prochaines semaines. Là, c'est vraiment juste l'idée, c'était de déjà pouvoir démarrer avec une aide significative et les choses vont se développer et monter en puissance dans les prochaines semaines.
Tous les deux, vous avez évidemment été confrontés d'ores et déjà à des cas très graves à l'hôpital de Calais, à la réanimation, à des gens que l'on place en réanimation à cause du Covid. C'est une machine que vous connaissez.
Oui, Céline, je te laisse en dire un mot.
On connaît, on a vécu les trois vagues précédentes ici sur l'hôpital. Donc on sait un petit peu à quoi s'attendre et on sait pourquoi on part.
D'accord, mais en tout cas, je sais, vous l'avez dit, c'est un travail d'équipe, c'est une solidarité qui se fait au sein de l'hôpital, mais je pense que je ne suis pas la seule à admirer le geste que vous faites, Frédéric Baptiste et Céline Guélin, en partant aider vos confrères aux Antilles. Donc demain, merci infiniment à vous. Je rappelle que Frédéric Baptiste, vous êtes chef des urgences de l'hôpital de Calais, et Céline Guélin, infirmière dans le même établissement. Merci à vous deux.
Merci.
Merci beaucoup. On fait une pause sur RTL et dans un instant, des jeunes cherchent à être contaminés pour échapper à la vaccination. Ils n'hésitent pas, écoutez bien, à passer des petites annonces.
RTL Midi, le 12-30 avec Agnès Bonfillon.
Et il est désormais midi 46 sur RTL pour pouvoir circuler librement dans tous les lieux publics sans se faire vacciner ou tester régulièrement. Certains jeunes choisissent une méthode plutôt extrême. Depuis quelques semaines, des annonces fleurissent sur les réseaux sociaux pour rechercher un lieu de contamination. Oui, oui, vous avez bien entendu. Écoutez, cet étudiant de 21 ans, lui a posté son annonce sur Twitter. Il veut absolument être en contact avec le virus.
Je m'en fous un petit peu de l'attraper ou pas, sachant que si je l'attrape, j'aurai 6 mois de tranquillité par après, quoi.
Vous, ça ne vous fait pas peur d'attraper le Covid ?
Vraiment pas, vraiment pas. J'ai déjà entendu des personnes autour de moi qui ont attrapé le Covid et qui l'ont vraiment eu dans un état grave. Ça ne me fait pas si peur que ça, parce que je sens vraiment que j'ai une très bonne immunité. J'ai déjà attrapé des grippes qui étaient bien plus sévères que ça. Moi, le Covid en tant que tel, même les variants, tout ça, moi, pour l'instant, ça ne fait vraiment pas peur. J'ai plus peur du vaccin, des répercussions que ça peut avoir à longue durée sur nous. Mais être là, avoir un vaccin qui a été conçu en une année et qu'on l'oblige maintenant à des millions et des centaines de millions de personnes à le faire, ça me fait froid dans le dos, ça me fait beaucoup plus peur que le Covid, quoi.
Des propos recueillis par Nerissa et Mani. Dites-nous ce que vous en pensez de ces jeunes qui préfèrent attraper le Covid pour éviter de se faire vacciner et continuer à circuler puisqu'ils bénéficieront d'un certificat. La jeune femme à la pancarte interpellée il y a quelques instants à peine, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a donné des nouvelles concernant cette affaire, concernant cette jeune femme qui était présente samedi dans un cortège à Metz, une manifestation anti-pass sanitaire. Sur une photo diffusée un peu partout sur les réseaux sociaux, on la voit brandir une pancarte sur laquelle sont inscrits les noms de plusieurs responsables politiques, hommes d'affaires et intellectuels, pour la plupart juifs. Un message clairement antisémite. Et cette personne, Samuel Goldschmidt, est loin d'être anonyme.
Oui, elle a été transférée, donc, selon les dernières informations, au commissariat de Metz pour débuter donc cette enquête. Le préfet de Moselle avait laconiquement confirmé avoir fait un signalement au procureur et l'enquête a donc démarré. Alors cette personne, selon les photos, ressemble fortement à une militante d'extrême droite dont le parcours est d'ailleurs un peu difficile à suivre. Elle aurait été collaboratrice de Louis Alliot, numéro 2 du FN, avant d'être licenciée rapidement. C'était en 2013, après un passage au second tour des élections législatives dans la circonscription de Sarrebourg, sous les couleurs du Front National. Elle a dénoncé ensuite un système totalitaire au FN. Elle a quitté le parti avant de se présenter aux élections municipales de sa commune natale de Hombourg-Haut. Elle a siégé durant un mandat dans le conseil municipal. Elle s'est représentée en mars dernier, nouvel échec, à la mairie de Hombourg-Haut. On nous confirme ce matin qu'elle ne siège plus depuis. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation officielle encore que cette manifestante de la photo soit bien cette personne, mais l'enquête donc a démarré au commissariat de Metz.
Samuel Goldschmidt en direct de la région Grand Est pour RTL. Une fusillade la nuit dernière à Perpignan, en plein centre-ville. Un homme de 23 ans a été abattu. 3 autres personnes ont été blessées, dont une grièvement. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un règlement de compte lié au trafic de drogue.
RTL Midi.
RTL, il est midi 49. Il y a un an, jour pour jour, le président biélorusse Alexandre Loukachenko était reconduit avec 80% des voix. Une élection immédiatement contestée par l'opposition qui avait tout de suite organisé des manifestations dans tout le pays. Des manifestations violemment réprimées par les autorités. Depuis, des milliers de contestataires ont été arrêtés. La répression continue. Beaucoup de contestataires ont dû fuir le pays. C'est le cas de la principale opposante à Loukachenko, Svetlana Tikhanovskaya. Émilie Beaujard pour RTL, vous avez pu la joindre. Elle est exilée en Lituanie depuis 1 an et demi maintenant.
Ne pas se taire malgré la peur. Voilà le quotidien de Svetlana Tikhanovskaya qui réclame depuis 1 an la tenue d'un nouveau scrutin en Biélorussie.
La vie ne m'avait pas préparé à ça, mais je le fais avec fierté. Je suis là où je dois être et je n'abandonnerai pas.
Depuis son exil en Lituanie, elle continue d'appeler les Biélorusses à se soulever, à dire non au régime de Loukachenko qui multiplie les répressions contre ses opposants.
On le doit à tous nos compatriotes qui sont emprisonnés, qui ont été blessés ou même qui ont perdu la vie dans ce combat. Cela peut passer par des petites choses comme écrire aux prisonniers politiques ou bien aider leurs familles. Faites ce que vous pouvez.
Plus de 600 Biélorusses sont en ce moment emprisonnés pour avoir critiqué le régime. Des centaines ont fui le pays par peur d'être arrêtés ou torturés. En un an, la situation ne s'est guère améliorée.
Le régime commet des violences, a enfermé tant de personnes derrière les barreaux. Nous savons à quel point ce régime peut être cruel. Nous connaissons les difficultés encore devant nous.
Svetlana Tikhanovskaya en appelle toujours à l'Union européenne. Elle demande des sanctions encore plus sévères à l'encontre de Loukachenko pour l'obliger à accepter une transition démocratique du pouvoir.
Entretien réalisé par Émilie Beaujard du service étranger de RTL. Je me tourne vers vous maintenant, Éric Silvestre, pour un tout autre sujet. Avec une question, est-ce pour aujourd'hui ou pour demain? Les supporters du PSG s'impatientent. Lionel Messi n'est toujours pas arrivé à Paris. Après la fin de son contrat avec le FC Barcelone, il n'y a plus guère de doute. Hein. Même si rien n'est officiel, l'attaquant argentin devrait bien rejoindre Kylian Mbappé ou encore Neymar cette saison.
Hein.
Oui. Vous me traitez de supportrice parisienne.
Tout, je vais me faire gronder.
Bonjour en tout cas à vous. Et c'est un gros coup pour le club parisien. Mais pas seulement.
Oui, un coup retentissant en effet sportif, bien sûr, même à 34 ans, mais aussi financier et diplomatique. À Barcelone, l'impact de l'Argentin dans les revenus directs ou indirects du club atteignait les 30%, soit plus de 200 millions d'euros. À Paris, la billetterie, mais surtout le merchandising, les contrats de sponsoring et les partenariats vont franchir un nouveau cap, avec une hausse d'au moins 20% dans chaque secteur, de quoi largement booster le budget du club de la capitale et de rentabiliser l'investissement en 2 ans. Mais l'arrivée de Messi au PSG va également permettre à la Ligue de rayonner mondialement et même profiter à l'État français, comme pour Ibrahimovic, Cavani ou Neymar, mais dans des proportions décuplées. Le Qatar va en effet aligner les zéros dans les comptes avec un salaire de 40 millions d'euros net par an. Paris va payer plus de 15 millions de cotisations patronales auxquelles s'ajouteront une vingtaine de millions d'impôts. Coût total pour le contribuable, zéro. Et sans doute beaucoup de plaisir en écoutant les exploits du sextuple Ballon d'Or sur RTL.
Éric Silvestro du service des sports de RTL. Reste à savoir si Lionel Messi donc arrivera dès aujourd'hui.
Les sponsors se préparent activement, sans doute pour une officiation et une présentation mercredi. Mais on vérifie encore les informations.
On attend, en tout cas, vous nous tiendrez au courant, Éric. En tout cas, vous pouvez réagir, amis auditeurs, hein, au 3210 concernant cette arrivée imminente de l'astre argentin dans le club parisien. Attention, si vous êtes sur la côte basque, baignade interdite depuis hier soir sur les plages de Bidart, Biarritz ou encore Saint-Jean-de-Luz à cause d'une algue toxique qui peut provoquer des allergies mais aussi des symptômes respiratoires.
RTL. Ces découvertes qui ont changé nos vies.
Chaque lundi cet été, vous le savez, on s'arrête avec le service santé de la rédaction et les archives de RTL sur les grandes découvertes médicales qui ont changé nos vies. Gros plan aujourd'hui sur les traitements contre le cancer. C'est la maladie qui fait le plus peur aux Français. On compte chaque année en France plus de 380 000 nouveaux cas et plus de 157 000 décès. Mais aujourd'hui, on guérit 55% des cancers. C'est 20% de plus que dans les années 80. Il faut voir là le résultat des progrès dans le dépistage. Un diagnostic plus précoce accroît les chances de survie et une avancée prodigieuse dans les traitements, Odile Pouget.
C'est quand même malheureux au XXe siècle et à l'ère nucléaire de ne pas avoir le médicament miracle qui puisse soigner cette maladie.
Cancer, un mot terrible que nous ne prononçons devant ce micro qu'avec de très grandes précautions.
Personnellement, j'en ai assez peur. J'ai peut-être tort. Il faut peut-être tout de même faire confiance aux chercheurs et aux médecins.
Nous sommes dans les années 60 et à l'époque, pour combattre ce fléau, les médecins n'ont que quelques armes à leur disposition. Chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie.
Les premières chimiothérapies ont commencé en 1951.
Laurent De Gausse, cancérologue, généticien, professeur d'hématologie.
C'était un traitement qui freinait la multiplication de la cellule et ça a été employé surtout pour les enfants ayant une leucémie aiguë. Ils sont venus ensuite d'autres médicaments qui ont permis d'obtenir des rémissions complètes, durables et même à vie.
La lutte contre les cancers, de nouveaux progrès dans les traitements. L'information nous vient de Nantes, où présentation ce matin d'une nouvelle
radiothérapie.
Le cancer peut être un nouvel espoir de guérison, un espoir qui porte un nom, l'immunologie.
Un espoir pour le traitement du cancer de l'ovaire, une maladie...
La recherche va fort heureusement progresser à pas de géant. Une des révolutions de ces 20 dernières années se nomme immunothérapie.
Avant, on parlait en mois dans le traitement du cancer du poumon. Aujourd'hui, on parle en années.
Le docteur Olivier Mire, oncologue médical à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif.
C'est un médicament qui ne va pas agir sur la tumeur, il va agir pour réveiller les défenses de l'organisme et leur permettre de faire leur travail, c'est-à-dire aller tuer les cellules tumorales. Donc finalement, c'est la façon la plus naturelle de lutter contre le cancer, beaucoup plus qu'avec une chimiothérapie ou de la radiothérapie.
Moins d'effets secondaires, pas de perte de cheveux par exemple, pas de nausées et des résultats spectaculaires pour de nombreux malades comme Liliane, qui souffrait d'un mélanome à un stade avancé. En 2014, à la sortie de sa dernière consultation, la septuagénaire témoigne sur RTL.
Je suis en rémission complète. Alors je peux dire que c'est presque miraculeux. Avec 9 nodules dans la jambe plus au poumon, je ne serai plus là. Alors c'est vous dire que je ne réalise pas encore tellement.
Mais l'immunothérapie a ses limites. 20 à 30% seulement des patients répondent au traitement. Et tous les cancers ne sont pas concernés. Les médecins explorent alors des combinaisons de traitements. À l'immuno, on associe des chimios et des thérapies ciblées. On ne traite plus le cancer du sein, du rein ou du poumon, mais on mène la guerre contre des anomalies moléculaires, quel que soit l'organe touché.
J'ai pas mal de patientes, parce que je m'occupe de cancer du sein et de cancer gynécologique, qui malheureusement se sont vues dire un jour « Madame, on n'a plus de traitement pour vous, la chimiothérapie, ça ne marche pas. »
Olivier Trédan, oncologue au centre Léon Bérard, à Lyon.
Je leur ai fait ce séquençage du code génétique. J'ai trouvé une anomalie spécifique, avec un médicament qu'on n'utilise pas d'habitude dans les cancers gynécologiques, et ça a marché.
Il ne faut pas donner trop d'espoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tumeur qui était incurable et qui tout d'un coup guérisse.
Agnès Buzyn, présidente à l'époque de l'INCa, l'Institut National du Cancer.
Mais nous gagnons chaque année des mois et des mois de survie dans pratiquement toutes les tumeurs.
Les champs d'investigation sont immenses. Pour vaincre le fléau, Laurent Degausse, le professeur d'hématologie, poursuit un rêve depuis 4 décennies.
Au lieu d'aller tuer les cellules par la chirurgie, par les radiothérapies, par la chimiothérapie et même par l'immunothérapie, est-ce qu'on ne peut pas changer la cellule maligne en cellule normale? C'est un peu ça le rêve. Ce n'est pas hors de notre portée. On a déjà des résultats positifs par cette manipulation de la cellule cancéreuse.
Aujourd'hui, on guérit un cancer sur 2 contre 1 sur 3 il y a 30 ans.
Une chronique signée Odile Pouget. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les chroniques que nous vous proposons cet été sur l'appli RTL. La météo, Claire Delorme. Alors on est d'accord, si je vous ai bien écouté tout à l'heure, mercredi, soleil pour tout le monde.
C'est exactement ça. À partir de mercredi, le soleil sera présent sur l'ensemble du pays avec en prime enfin des températures de saison, à savoir environ 25 degrés pour la moitié nord et 30 degrés pour la moitié sud. Mais il va falloir encore un petit peu patienter, surtout pour cet après-midi et pour demain, parce qu'on sera exactement dans la même configuration, à savoir donc la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, pour avoir un ciel un petit peu plus mitigé, avec une alternance de passages nuageux porteurs d'averses par moment, mais aussi quelques éclaircies, quelques timides éclaircies accompagnées d'un petit peu de vent. 50 km/h, puis c'est pareil, on n'est pas non plus à l'abri d'un petit coup de tonnerre par endroit qui pourrait se développer seulement en fin de soirée. Sinon, partout ailleurs, plus on va vers le sud et plus le soleil va pouvoir l'emporter, même dominer. Un ciel tout bleu d'ailleurs en direction du Languedoc ou même de la Provence, où là, en plus avec les températures très estivales, c'est vraiment mais idéal pour les vacanciers, les chanceux. Et donc parlons-en justement des températures. C'est la hausse qui commence déjà à battre son plein. Il faudra encore un tout petit peu patienter pour le nord et le nord-ouest avec 19 à 23 degrés. Sinon, il fait déjà 22 à 26 degrés sur l'est et le massif central, 25 à 30 degrés du sud-ouest à la Méditerranée. Et s'il vous plaît, on n'est pas à l'abri même de quelques petites pointes de 33 voire 34 degrés au meilleur de la journée, que ce soit vers les Bouches-du-Rhône, la Provence ou encore vers la Corse. Bonifacio, moi j'aime bien Bonifacio.
Ce qui veut dire, Claire, qu'on va bientôt pouvoir enlever nos pulls quand on se trouve dans le nord?
Bien sûr, et puis même sortir la crème solaire, sortir les chapeaux, les lunettes de soleil, mais parasol aussi. Et puis, il faut bien penser à s'hydrater, car on n'est pas à l'abri justement d'une insolation ou même d'un petit accident par-ci par-là.
L'été va arriver, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Oui. Merci beaucoup, Claire. RTL, il est 13h.